Développer un univers narratif sur plusieurs médias, comme la télévision, Internet, la radio, la littérature, offrir un regard complémentaire sur cette histoire. Permettre d'explorer chacun de ces éléments, indépendamment les uns des autres, avec des points d'entrée multiples dans l'histoire. C'est tout ça, le transmédia. Dans le podcast, nous partirons à la rencontre de créateurs et créatrices du Sud-Ouest. Je vous emmène à la découverte du jeu, de la lecture et même de la science. À chaque fois que le transmédia a fait une incursion, discrète ou pas, dans votre vie. Je suis Clémence Postis et vous écoutez un podcast du CATS, le cluster aquitain du transmédia storytelling, produit par le média local Revue Far West, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole. Nous sommes en mai 2017. Entre les deux tours de la présidentielle, je décide de me détendre devant la plateforme de streaming Twitch. Quelle surprise de voir un Américain jouer devant plusieurs millions de spectateurs à un tout petit jeu bordelais, Dead Cells. Ce tout petit jeu bordelais a reçu depuis le Game Award 2018 du meilleur jeu d'action et s'est vendu à quelques 2 millions d'exemplaires. Derrière ce succès commercial se cache beaucoup de talent évidemment, mais aussi un succès marketing. Steve Philby s'est d'abord occupé de la communication de Dead Cells avec sa boîte Indie Catapult, avant de reprendre la création de nouveaux contenus pour le jeu avec sa société Evil Empire. Car, depuis bientôt 3 ans, Dead Cells continue d'être mis à jour régulièrement. Via les forums, la communauté de joueurs joue, teste, acclame et réclame. Dans cet épisode, nous allons essayer avec Steve Philby de décortiquer ce processus de création avec et pour les joueurs via les forums. Mais pour commencer, une question me taraude. Pourquoi Dead Cells n'est-il jamais complètement terminé ?
Il y a des jeux qui sortent et qui sont, on peut dire, lassés. Et où je trouve c'est dommage. Pardon. Dans le sens où il y a de la potentiel. Il y a une communauté, il y a une demande externe qui dit allons-y, on va faire plus de trucs avec ce jeu, on a envie de s'y accrocher. Et il y a des jeux où ça n'a pas de sens. Genre un jeu narratif où une fois c'est fini, il n'y a pas de... What became Edith Finch ou ce genre de truc, c'est... Tu vas nulle part avec ça, c'est noir, Hellblade, tu vas pas aller faire un espèce d'expansion pack de ce genre de truc. Dead Cells étant un roguelite où le core loop, la boucle principale du jeu est infini. Ça c'est prêt justement à ce genre d'addition de contenu, donc on peut changer faire des petits changements un peu mineurs qui vont radicalement quand même changer le gameplay et du coup réintéresser la communauté. Et en fait c'est aussi je pense un truc psychologique dans le sens où c'est un boucle de jeu qui est très, une fois que tu maîtrises le jeu, c'est très détendant. Il y a beaucoup de gens il y avait un meme sur Reddit juste l'autre jour qui avait, 1500 upvotes ou un truc comme ça, avec 3 bonhommes dans l'arrière-plan qui s'appelaient Stress, Anxiety, Problems ou je sais pas quoi. Et le mec qui était là, qui avait des galères, et du coup, il y a Dead Cells qui arrive d'hors plan et qui prend le bonhomme et qui donne un petit câlin. Genre, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent Dead Cells comme une espèce de loisir vraiment qui détend. Moi qui trouvais le jeu ultra stressant quand je commençais, maintenant que je connais très bien le jeu, je suis capable de faire des run switch où je suis quasiment en autopilote, je fais même pas gaffe de ce que je fais. Sauf si je chope une bonne item et j'arrive quand même à aller un peu loin, là je suis mal, ok, là je vais faire un petit peu gaffe, mais c'est cool parce que tu passes d'un moment de détente à un moment de focus très intense. Et donc c'est ce boucle là je pense qui fait en sorte que Dead Cells est très intéressant d'un point de vue game as a service, on va dire. C'est un peu un changement de paradigme dans le sens où le marché de manière générale vire vers ça. Genre, on voit des jeux maintenant qui font des season pass, qui font des trucs où ils savent que, bah, ok, communauté, nous, on annonce 2 ans de contenu, donc le jeu est sorti ici, mais vous savez que pendant 2 ans, vous pouvez passer du temps là-dedans. Et donc, si t'as un jeu à succès, avec une communauté, bah, tu peux continuer à faire ça. Donc, d'un point de vue business, ça a du sens, enfin, ça sécurise énormément. S'il y a un jeu comme Dead Cells qui fait énormément d'argent, et on peut sécuriser un flux de revenus, ça permet par exemple de monter une deuxième équipe et de continuer à faire autre chose. Donc c'est ce qui se passe là avec Motion Twin Evil Empire. Motion Twin, ils ont de la thune pour dire ok, bah, on va financer cette équipe de Evil Empire. Et eux, ils vont continuer à faire Dead Cells, donc c'est-à-dire continuer à faire de l'argent. Imaginons qu'on fait du DLC payant et du coup il y a les gens qui nous donnent une injection d'argent. Bah, cet argent va aller à Motion Twin principalement et leur permettre de faire leur prochain jeu. Donc ils peuvent grandir ou il va y avoir une partie qui va rentrer chez nous et ça va nous permettre d'avoir une deuxième équipe et faire un autre jeu. Donc d'un licence, avec un peu de gestion du côté business, on peut faire plusieurs jeux. Donc c'est vraiment une idée de profiter d'une opportunité qui arrive pas souvent, on va dire, parce que les jeux à succès au niveau de Dead Cells, c'est pas le truc qu'on voit tous les jours, c'est plutôt l'exception que la règle. Donc il y a ce temps dans ce marché qui fait en sorte que c'est possible à faire ça, et la base des mécaniques du jeu, je pense qu'il s'y prête. Donc, si on avait fait un jeu narratif, probablement on serait pas en train de faire ça. Quoique il y a des jeux qui font de l'épisodique, hein, un peu comme si c'est un BD ou un truc comme ça, mais nous c'est pas comme ça qu'on avait conçu le truc. Voilà.
Et comment est-ce que vous dialoguez avec votre communauté?
Ouais. Donc, comme j'ai dit, pour nous, on ne considère pas ça comme du marketing, parce que, en fait, c'est du marketing à la fois, mais en même temps pas. Genre, il y a une façon de regarder ce que nous avons fait. Quand on était Indie Catapult, avec la stratégie de sortie de façon très cynique, dans le sens où moi je me suis dit, ok, comment on fait un jeu sur Steam aujourd'hui, sachant qu'on n'est absolument pas connu sur Steam, donc comment on se fait remarquer? Donc une des façons que j'avais trouvé, c'était de faire un Early Access. Early Access, ou accès anticipé, c'est un système, je présume que toi tu connais
tout ça,
mais justement j'explique pour le peuple. C'est un système qui permet de sortir un jeu qui n'est pas fini et de le faire payer à les joueurs. Mais c'est aussi une façon ultime pour récolter justement des informations sur les qualités de ton jeu. Donc nous, on a regardé comment faire un access. On savait qu'il faut avoir un très 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 bon prototype. Donc tu peux pas juste sortir ton truc dégueulasse et dire « Regarde, je vais faire un jeu !» parce que tu vas te faire massacrer. Donc on a poli notre prototype au mieux que nous on pensait pouvoir le faire. Mais on savait que c'est un roguelite, du coup en fait c'est infini. Il y a un nombre d'itérations quasiment infini du jeu. Donc il y a tout un tas de cas qu'on ne peut juste pas tester ou pas voir. Donc et à un moment donné, on a créé des niveaux de difficulté qui fait en sorte qu'on n'est juste pas assez bon pour les tester. Donc on savait qu'on avait besoin de ce feedback. Donc c'est un double tranchant, on avait besoin de construire une communauté, on avait besoin de feedback. Donc pour nous, Early Access, c'était un peu le seul choix. Donc on est entré dans Early Access, et du coup, avec l'idée de construire une communauté et récolter des feedbacks. Finalement, le feedback sur le jeu, les retours sur des joueurs étaient juste ultimes. Et ça a complètement changé en fait notre façon de développer. Et pour nous, c'était cool parce que Motion Twin n'ayant pas de chef, n'ayant pas de structure, ils ont besoin de quelqu'un avec un fouet externe qui vient un petit peu leur pousser. Et donc la communauté a très vite pris ce rôle-là, qui était très intéressant parce que tout d'un coup, moi, j'étais plus le seul à gueuler pour dire « Il nous faut des benchmarks, genre je suis... » Enfin, à l'époque, j'étais une équipe, je suis mec de marketing, je peux pas faire de bruit si j'ai pas de contenu, qu'est-ce que vous foutez ?» C'était la communauté qui prenait ce rôle en disant « Oh là là, dalle, donnez-nous des choses à jouer, genre ça fait 3 semaines qu'on n'a pas eu de nouveau contenu, qu'est-ce que vous faites ?» Et donc, les feedbacks, c'était principalement sur Steam au début, donc on récoltait des informations sur les forums Steam, en aller parler justement sur le forum directement avec le joueur, puis dire, enfin, si tu vois un rageux qui débarque en disant bah je viens de perdre une heure de run parce que ce truc a bugué, pété, hein. Donc tous les bugs on les récoltait comme ça, et ensuite on allait avoir des discussions. On s'est vite rendu compte que Steam c'est quand même un lieu avec à peu près zéro modération, qui peut très vite devenir un peu, j'aime pas le mot toxique, mais qui peut vraiment devenir un truc où t'as juste pas envie d'aller, parce que tu te fais bâcher de ouf, les mecs ils sont pas polis, ils couchent pas leur truc dans une forme acceptable, genre voilà un truc qui m'a déplu, voilà pourquoi ça m'a déplu, est-ce que vous pourrez peut-être faire ça. C'est plutôt vous êtes des grosses merdes, pourquoi ça marche pas, et du coup t'es en mode ah. Du coup on a vite voulu arrêter avec ça. Et on a remarqué qu'à côté Reddit, enfin moi j'avais créé le Reddit, je m'en suis pas servi, mais des mecs de la communauté avaient vu qu'il y avait un subreddit R Dead Cells, et ils se sont penchés dessus. Donc Reddit c'est une espèce de message board, un forum, mais un peu mieux fichu, où on peut échanger. Et oui, une communauté très passionnée, mais qui comprend un petit peu mieux, enfin il y a tout et n'importe quoi sur Reddit, mais sur, au moins sur notre Reddit, notre sub, il comprend que c'est pas juste du bashing gratuit qu'on va faire, c'est vraiment, on va sortir des informations, et ils sont capables de sortir des pavés plus longs que tes bras. C'est genre dingue, parfois les mecs ils vont t'écrire 20 000 mots sur pourquoi ils pensent que ce choix que t'as fait sur ton jeu est juste complètement stupide et que tu devais faire autrement. Et du coup, donc ça c'est devenu pour nous vraiment un lieu où on allait pour des retours sérieux, genre c'est parce que on a limite des mecs qui comprennent notre jeu mieux que nous, parce qu'ils ont, enfin des mecs qui ont mis 500 heures dans le jeu, qui ont battu les plus difficiles, enfin les difficultés les plus dures, et qui du coup ont tout un autre regard sur certains éléments et qui vont relever des choses que nous on savait juste, enfin, on savait pas que ça existait parce qu'on n'est pas assez bon pour y arriver quoi. Et ça c'est un truc qui était vite limitant pour nous, sachant que Seb, le lead designer, il peut pas battre le jeu je crois au-delà de BC1, donc il y a 5 boss cells, les BC, et donc du coup 6 niveaux de difficulté, donc lui il peut battre le BC0, BC1, et 2, 3, 4 et 5, donc c'est très difficile à avoir le vrai feeling, en fait, la sensation de jeu à partir d'un tableur. Genre, on se planque en face d'Excel, on regarde les courbes, on se dit, ok, bah là, en fait, l'augmentation, c'est pas trop raide, du coup, ça devrait aller, mais tu prends pas en compte le fait que si ce monstre-là, avec ce monstre-là et ce truc-là, dans ce positionnement dans le niveau, est ensemble, ça fait un truc complètement immonde, et du coup, maintenant on a plein de joueurs en train de râler sur les forums. Donc c'était absolument essentiel, cette étape de... Ok, nous on passe d'une espèce de connaissance de notre propre jeu qui est finalement assez théorique, à une expérience réelle qui existe pour les joueurs, et qui est traduit à travers Reddit, Discord, et enfin, parfois les Steam Forums, si on doit y aller.
Est-ce que tu as un exemple de quelque chose que vous avez développé en partenariat avec les joueurs? Justement, comment ça se passe? Vous voyez un retour, combien de temps ça prend pour le mettre en place? Et après, comment est-ce que vous l'injectez dans le jeu?
Oui, on a quand même beaucoup d'exemples. Enfin, un truc très récent, genre hier, c'est... pardon. C'est une question très simple de balancing du jeu. Donc en fait, on a créé un mode... on a créé le custom mode qui était entièrement un demande de la communauté. Ils voulaient justement qu'ils puissent ne pas avoir certains items ou certaines choses dans leur jeu. C'est un mode, mais ça serait cool qu'on puisse interdire ça ou changer ça, avoir plus de contrôle sur la difficulté, sur les générations du jeu. Donc ça, c'est un truc qu'on a créé avec eux. Ça aurait pris, je sais pas, 3-4 mois, le temps que... Enfin non, probablement plus. Ça c'était un gros projet. 6 mois, je pense, du moment où il commence à le demander, où on arrive à le mettre dans le jeu. Mais du coup, un point plus spécifique, pour te donner un exemple, c'est ce custom mode a créé des scénarios qu'on n'avait pas envisagés. Où, par exemple, on avait dit, ok, si tu choisis tous tes items de départ, ça change fondamentalement le jeu qu'on a créé à la base. Et donc, on va pas vous permettre de débloquer les succès, les achievements. Et pour certains joueurs, ces achievements sont très importants, parce qu'on considérait qu'en fait, tu trichais un petit peu. Tu rendais le jeu plus accessible, plus facile, et du coup, t'avais un avantage en comparaison avec les gens qui jouaient pas avec ça. Donc on disait, non, c'est pas possible. Pourtant, les mecs étant malins, ils avaient compris que si on interdisait tous les items, sauf les items avec lesquels on voulait jouer, bah, on finissait à avoir ces mêmes possibilités et à pouvoir débloquer des achievements. Et du coup, en ce moment, il y a certains items qui vont apparaître dans le jeu assez rarement, et qui sont assez forts. J'en vois très forts. Et du coup, les mecs, ils jouent tellement qu'ils commencent à créer une espèce de metagame qui existe au-delà du jeu. Donc, c'est-à-dire, quelle est la stratégie, la meilleure stratégie en ce moment pour battre le jeu. Quel est le meilleur chemin à prendre pour avoir le maximum de stats et avoir le plus de possibilités de trouver ses items. Et du coup, ceux qui interdisaient tous les items, sauf ces items ultra puissants, bah, ils pétaient le jeu en 3 secondes, parce qu'ils arrivaient, on avait deux chouettes ultra puissants qui te suivent dans le jeu, qui font des dégâts sans que tu aies rien à faire. Et donc ils arrivent dans une salle de boss, ils font rien du tout, genre ils bougent absolument pas, et ça défonce le boss en 3 secondes. Et ils débloquent le succès, j'ai battu la boss sans être touché. Et donc pour nous, on était mode, mais non, c'est pas possible. Donc il y a une demande d'une bonne partie de la communauté d'arrêter ça, parce qu'ils trouvaient que c'était injuste. Eux, ils avaient passé des centaines d'heures à découvrir quelle était la meilleure stratégie, par où ils devaient passer pour avoir ces items-là, avoir la chance d'avoir ces items, genre une de ces items. Et il y avait des mecs qui tout simplement faisaient « bah je veux que ça », et du coup je l'ai depuis le début, et je pars avec, et je roule, ça rejoue. Et donc ça aurait pris, ça c'est l'update 15 qu'on va sortir, enfin qui est parti en bêta hier. Du coup, normalement ça devrait sortir dans une semaine. C'est en alpha depuis 3 semaines et c'était en développement pendant, je sais pas, 2 mois avant. Donc il y a un cycle d'à peu près 3 mois, je pense, entre le moment, enfin, mais ça dépend. Le constat sur ce problème là existe depuis un moment. C'est juste qu'on s'est dit, bah, on n'a pas les ressources, on a une norme limitée de bras, en fait, et de temps qu'on peut passer sur un problème. Donc, c'est vraiment en fonction de gravité du problème. Si le problème est vraiment là, on va le régler très vite, et c'est capable d'être du jour au lendemain. Par exemple, si un truc qui bug, on va pusher le patch dès qu'on a découvert d'où vient le bug, et on peut le réparer. Xbox par exemple, ils ont eu des gros problèmes avec la dernière sortie parce qu'il y a une petite connerie qui s'est glissée dans un truc que personne n'a vu et qui était très 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 difficile à trouver, sauf si on savait qu'il y avait ces conneries qui s'est produit à un moment donné, et ça nous a pris, je sais pas, on a dû pousser 3 ou 4 updates dans une période de 10 jours, donc ça peut être très très vite comme ça peut prendre 6 mois pour le custom mode ou 3 mois pour ce petit problème avec les chouettes. Et là, du coup, la solution, c'est hier, j'ai balancé un post sur Reddit où j'ai expliqué, ok les gars, voilà le problème qu'on a remarqué, voilà les solutions qu'on apporte. Et du coup, t'as ensuite les discussions avec la communauté qui part pas dans tous les sens, mais dans deux camps. T'as une partie de la communauté qui est en mode, bah oui, ça fait longtemps qu'on râle, super, merci d'avoir résolu ça. Et les mecs qui profitent à DeFi, qui vient et qui disent, bah, mais c'est quoi cette merde? Vous allez interdire, en fait, notre moyen préféré de jouer au jeu. Donc, c'est une espèce de retour où il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Et nous, on doit tenter à réfléchir à quels sont les principes de base du jeu qui ont été posés par les mecs de Motion Twin. Pour nous, c'est toujours, comment dire ça, c'est en anglais, on dirait you're walking on the razor's edge, mais tu marches sur un rasoir, je sais pas si on peut dire ça, mais Tu marches sur un fil entre deux bâtiments qui est très fine et où l'équilibre est très délicat entre dire à la communauté oui, c'est cool ce que vous voulez faire, et dire à la communauté non, vos désirs là vont à l'encontre de ce que nous on avait voulu créer en tant que développeur de jeux vidéo, dans ce cas là ce que Motion Twin ont voulu créer. Et donc c'est pour ça qu'avec Motion Twin et Evil Empire, il y a une coopération très étroite. Donc nous, on va parfois être en désaccord. Il peut y avoir des principes de design que Sébastien a mis dans le jeu, que Johan et moi, on n'aime pas. Le grind, par exemple. si eux, ils nous disent, bah non, en fait, ça, on a mis pour ces raisons-là, ils défendent leurs arguments, et du coup, nous, on est en mode, ok, on l'aime peut-être pas, mais c'est votre jeu que vous avez créé, vous avez envie d'avoir ça dedans, du coup on va pas venir le péter. Et du coup c'est la même chose avec la communauté. Parfois ils vont dire, bah en fait on aime juste pas ça. Et on va être obligé à dire, ok, entendu, mais mine de rien, on va pas respecter votre désir là, parce que c'est pas le jeu que Motion Twin imaginait, et que maintenant nous on a approprié, et qu'on veut vous offrir. Sachant que une des problématiques avec ce retour de communauté, c'est que, je sais pas comment dire ça en français, self-selection bias ou preference. En gros, t'as une espèce de biais qui se crée dans les retours, parce que c'est toujours le mec qui gueule le plus, qui s'exprime. Donc on peut avoir une espèce de majorité silencieuse qui dit rien du tout, qui s'implique pas. Mais on a certains types qui sont toujours là à dire « Ah, on veut ça, machin !» C'est intéressant parce que parfois on a implémenté certaines choses pour plaire à ce genre de joueurs élites, et ensuite on a vu que ça a eu un impact négatif sur, on va dire, le playtime médian ou la facilité pour le jeu, pour les débutants à rentrer dans le jeu. Et du coup, il faut toujours garder en tête cette idée de « Bah là, on a affaire à des gens aguerris, genre des gens qui comprennent à fond le jeu, même mieux que nous dans certains aspects. Et du coup, ils regardent de ce point de vue-là. Il faut toujours être conscient de ce biais qui peut se produire.
Et ce dialogue et ce besoin de retour de la communauté, c'est propre à Dead Cell, Motion Twin et Evil Empire? Ou est-ce que c'est dans toute la communauté du jeu vidéo aujourd'hui ? Aujourd'hui, la place des joueurs et des forums, elle est comment dans l'industrie du jeu vidéo ?
Elle n'a jamais été propre à Motion Twin. Par contre, Motion Twin a toujours pratiqué ça, et l'a fait depuis très tôt. Donc nous, en fait, faire ça sur du PC et du console était naturel, parce que tous les jeux web, quand je suis arrivé à Motion Twin, la première chose que je faisais, c'était rentrer sur le forum, me présenter. Parce qu'on avait une communauté qui nous suivait. Et donc pour nous, c'est une façon de développer qui est assez naturelle. Et donc quand on a traduit ça à l'Early Access, ça a marché de ouf, parce que en fait, on a retrouvé en fait la vieille sensation de faire du jeu sur le web. On peut pusher des updates très régulièrement, on est directement en contact avec une communauté. Donc c'est pas du tout le mobile qui marche pas, absolument pas comme ça, t'as zéro contact avec eux, tu peux même pas répondre à tes reviews, du coup c'est un monde un peu spécial. Et du coup non, c'est pas propre à Motion Twin, mais nous on était bon dedans. Je dis nous parce que on est Evil Empire, Motion Twin, on est séparés, mais on bosse tous dans le même truc, on se considère un petit peu comme des confrères dans cette histoire. Donc maintenant, nous, on s'est beaucoup inspiré d'autres qui sont passés avant nous. Clay Games, par exemple, leur façon de développer, j'ai juste repompé entièrement leur stratégie de early access. Quand je me suis posé la question comment faire un early access, je suis allé regarder qui a bien fait des early access. Clay Games, ils déchirent tout. Et leur façon de bosser, c'est très proche avec la communauté. Ils vont entrer en contact avec eux, ils vont discuter, ils vont garder leur cœur d'idées, mais ils vont se laisser influencer par une communauté et faire un jeu qui évolue en fonction des gens qui jouent à ce jeu. Amplitude Studios, c'est un très bon exemple de ça aussi. Ils ont leur truc Game Together, donc ils ont tout un bordel de forum qui est gamifié en plus. Oui, ils récoltent les informations des joueurs, etc. Et donc ça devient un truc qui est de plus en plus démocratisé. Je sais que les mecs de Supergiant pour Addies, on avait parlé avec eux. Ils étaient en mode, comme vous avez fait, on a dit, bah écoute, un des trucs très importants, c'était de parler avec la communauté. Mais si tu veux regarder ce qu'ils font maintenant, c'est communauté à fond. Donc je pense qu'il y a un début de compréhension qui commence à se démocratiser vraiment dans le secteur, que le jeu n'est plus, enfin ça peut l'être toujours, mais certains types de jeux ne sont plus juste des jeux qu'on construit et qu'on pose et qu'ensuite hop c'est fini, on part. Maintenant c'est beaucoup plus une espèce de création collective qui se fait avec des on va dire des visionnaires, des gens qui ont des idées à la base, qui disent bah ce serait cool si on faisait ça, et du coup ils commencent à construire, à biduler un truc dans leur coin, et ensuite ils présentent au monde, et le monde ils disent ouais ça c'est trop cool, mais si tu ajoutais et du coup c'est parti pour faire une espèce de coproduction avec le monde comme ton source de retour et inspiration, et toi avec ta vision qui existait depuis le début mais qui est maintenant alimenté par l'intelligence collective, on va dire, de l'internet. Enfin, aussi bête que ça peut être parfois, mais... Ouais, du coup, c'est quelque chose qui pour nous semble évident. Personnellement, j'aurais du mal à imaginer un jeu où on n'impliquait pas la communauté, parce que c'est tellement... c'est rassurant, en fait. Pour moi, c'est une minimisation de risque. Parce que si on peut prototyper notre idée rapidement, avoir une base de jeu et commencer à la montrer aux gens, c'est drôle parce que c'est, enfin, je comprends pas pourquoi tu m'en fais pas ça. Quand on commence à faire des jeux vidéo, à comprendre comment le faire, une des choses que tu vas entendre over and over and over, c'est fail faster. C'est échouer plus vite. Échouer aussi vite que tu peux. Parce que, t'as beau avoir ton prototype et mettre ton cœur et toute ta vie là-dedans, mais si tu le montres à personne, tu sauras jamais si c'est merdique. Et si tu le montres que à ta mère, elle va toujours te dire que c'est bien, parce que c'est ta mère, c'est sa rôle. Et du coup, nous, même avec Dead Cells, on avait très vite commencé à encourager les gens à venir avec de la bière et des pizzas, et ils nous disaient, bah, venez chez nous, tester le jeu. On leur donne la bière, la pizza, on leur force à jouer au truc, enfin. On les invite à jouer au jeu, et ensuite on les regarde, on ne parle pas, on reste loin d'eux, juste à voir ce qui se passait. Et cette même idée, pour moi, c'est juste, du coup, le développement avec les communautés, c'est juste l'étalement de cette idée. Enfin, tu sais très vite, tu as besoin de retour pour sortir de ton boule, et pour se rendre compte de tes conneries que tu es sans doute en train de faire. Et du coup, si tu as une communauté qui a la possibilité de grandir à l'échelle de l'internet, donc c'est-à-dire quasiment à l'infini, t'as beaucoup plus de retours et beaucoup plus d'avis, et donc t'es beaucoup plus sûr d'aller dans le bon sens ou pas, et du coup de pouvoir échouer plus vite en disant ok, bah là on a lancé un truc en pensant que c'était cool, mais tout le monde nous dit que c'est de la merde, et du coup on va l'arrêter et passer à autre chose, ou on va reboot le truc et sabrer ça. Et ça nous est arrivé beaucoup de fois avec Dead Cells. Donc, tu ne le sais pas, mais c'était un Tower Defense, genre au début. Enfin, même avant ça, c'était un free-to-play mobile, web, cross-platform, multiplayer, asynchrone, truc. Et on a très vite, on s'est rendu compte très vite en faisant des playtests online avec notre communauté Twinoid à l'époque que c'était pas bon et qu'il fallait passer à autre chose. Et donc Seb, il a sorti la machette, il a découpé un peu partout et il est revenu avec un truc qui était qu'un jeu de Tower Defense. On continue, on commence à montrer ça aux gens et on se rend compte que, bah en fait, bah le Tower Defense c'est pas fun. Et en plus, il n'y a personne dans l'équipe qui veut vraiment bosser sur un Tower Defense. Ça, c'est juste un héritage qu'on avait de cette ancienne version qui existait, qui était lui-même un héritage d'une ancienne version qui existait avant. Et du coup, on sabre toute la Tower Defense. Qu'est-ce qu'on a? Bah, en fait, on n'a qu'un action platformer. Et du coup, bah, on va faire ça. On continue, et c'est ce processus de feedback et de reboot qui nous a permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, et qui continue d'être le cas. On sort des trucs foireux tout le temps, et tout le monde, le community nous dit « Mais what ? Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est pas possible !» Donc, voilà.
L'avenir de Dead Cell, là, c'est quoi ? Puisque Dead Cell est immortel, il va arriver quoi à Dead Cell ?
Toute bonne chose doit avoir une fin, à un moment donné. Et je pense que cette idée de game as a service et de création de contenu un peu à l'infini a ses limites. Et du coup, c'est une question un peu ouverte pour nous en ce moment, parce qu'on ne connaît pas encore ses limites. La communauté est toujours très intéressée par du contenu pour Dead Cells. Mais évidemment, le revenu de Dead Cells diminue. Donc... c'est pas tout le temps qu'on fait une sortie sur Switch qui fait beaucoup d'argent. Et du coup, c'est pas un truc qui est juste un donné. Donc il y a l'aspect financier qui, à un moment donné, nous forcera à arrêter. Je ne connais pas le cycle de vie de Dead Cells aujourd'hui. Je peux pas dire que ça va être minimum 3 ans ou ça va être minimum 6 ans. Je sais pas. Enfin, le Binding of Isaac, ça fait combien de temps que les mecs ils bossent dessus ? Longtemps. Et puis, il y a le côté inspiration et artistique. Dans le sens où, c'est pas juste parce que ça fait de la thune que tu veux le faire. Ça envoie chez Motion Twin, ils ont dit certes le jeu ça fait plein de thunes, mais on n'a pas lancé Motion Twin et on n'est pas un scope pour venir et bosser pour la thune. On est là parce qu'on adore le jeu vidéo et on veut bosser dans le jeu vidéo, et du coup on veut s'exprimer à travers ce médium là bien qu'il y a plein de choses qu'eux ils auraient pu faire, ils ont plus envie de faire un autre truc. Ils savent pas ce que c'est pour l'instant, mais ils ont envie d'expérimenter et passer aux choses. Donc ça nous arrivera à un moment donné. Nous étant une boîte plus traditionnelle, on peut juste contrer ça en disant ok, toi t'es fatigué avec Dead Cells, très bien, on te met sur un autre projet et on place avec quelqu'un qui est chaud pour bosser sur la licence. Mais ensuite, plus bas niveau même que ça, c'est est-ce que ce qu'on est en train de créer apporte quelque chose au jeu? Parce qu'à un moment donné, on peut faire une espèce de monstre de Frankenstein qui est juste dégueulasse. Si on continue à ajouter des bricoles et des bidules et des machins partout, à un moment donné, ne serait-il pas plus intéressant à dire, en fait, toutes ces idées-là, ça ressemble plus à un Dead Cells 2. Pourquoi on ne ferait pas un Dead Cells 2? Ou on aimerait bien renforcer le côté Metroidvania du jeu. Sauf que c'est compliqué à faire dans la structure actuelle, est-ce ne serait-il pas plus intéressant à faire une espèce de spin-off Dead Cells Metroidvania, quoi. Je sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tout ajout de contenu au jeu doit apporter quelque chose vraiment au jeu, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui est voulu par la communauté et qui plaise à la communauté. Alors ça, on va voir parce que, un, ça va se vendre, ou deux, ça va faire revenir des joueurs. Et donc, tant que ces choses-là sont tous alignées, on va continuer à créer du contenu pour le jeu. Tant que ça a plus... Si à un moment donné, ça n'a plus de sens, on arrêtera, on passera à autre chose. L'ambition pour Evil Empire, et justement la raison pour laquelle on est une structure à part, c'est que on a pas les contraintes de croissance que Motion Twin a. Quand t'as zéro hiérarchie et t'as un scope où il n'y a pas de boss et ils sont allergiques au management et tout ça, c'est juste pas possible. Enfin, plus que 10, c'est la catastrophe. Alors que nous, on a tout ça. Genre, on peut croître autant qu'on veut. Donc, si on peut avoir 2-3 projets Dead Cells sur le feu en même temps, why not? Après, ça doit avoir du sens artistique. On va pas juste le faire pour l'argent. Faut vraiment que ça soit un truc cool qui nous intéresse à faire et que ça ajoute quelque chose à la licence et à l'univers de Dead Cells. Parce que la communauté, je pense qu'ils sont très intéressés par un Metroidvania, par exemple, avec beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus de secrets, genre un peu plus Hollow Knight. Et nous, ça nous intéresserait à la créer. Mais il faut que ça soit à le niveau. Et donc, on fait petit à petit, et en fonction de nos capacités, la demande de la communauté, et il y a toujours Motion Twin derrière qui sont très... comment dire... Ils sont protecteurs de leur bébé, quoi. C'est leur truc, donc ils nous confient la chose, mais on bosse dans le même bureau qu'eux, pour une raison, pour qu'on vienne le voir régulièrement, pour dire, regarde, on va faire ça, est-ce que ça vous va? Ils nous testent, oui, ok, ça c'est cool, mais ici, on pourrait faire un petit coup de polish, parce que... Mais... Et donc, tant que tout ça marche, ça marchera. Et quand c'est le moment pour finir, bah, on arrêtera. Quoi. C'est intéressant parce que pour moi, ça fait partie de l'ADN de Motion Twin. Motion Twin, c'est un scope où tout le monde est égal. Il y a zéro hiérarchie, donc tout le monde est légitime à venir dire tout est n'importe quoi, tout est n'importe qui. Donc, comme moi, j'étais le marketing dude, je suis arrivé et j'ai dit, bah, ce dash-là, enfin, c'est nul, pourquoi c'est pas un roulade? On pourrait voir un roulade, se sentira mieux. Mais ensuite j'ai parlé avec des autres, on a commencé à dire ça à plusieurs, et du coup Seb il a fait bon, et un jour hop, il y a un roulade dans le jeu. Et ça c'est juste un exemple personnel, mais c'est une façon de créer qui est assez communautaire chez Motion Twin de base, qui est un truc que je pense rendre ça naturel pour eux de vouloir collaborer avec ensuite Evil Empire, et puis à plus grande échelle la communauté de manière générale, dans le sens où c'est ce feedback, ce loop, ce boucle de retour qui vient au début d'autres membres de l'équipe, aux game designers, donc à Sébastien, Mathieu, ou les deux Mathieu, qui sont en train de construire des niveaux, des monstres, des trucs. Et le reste des équipes vont tester ce truc, ils vont dire « Ouais, ça c'est cool, mais... » Et donc il y a tout un tas de retours qui vient, des tests, enfin des changements qui sont faits. Ensuite, c'est ce boucle qui existe en interne chez eux. Et je pense qu'il y a beaucoup de studios qui n'ont pas ça, dans le sens où il peut avoir un game designer qui est une espèce de petit roi, qui dit « Bah, c'est comme ça, si tu l'aimes pas, bah tant pis, tu le fais. » Et donc pour moi, c'est toute la force de Motion Twin. Et donc, qu'ils étalent ça naturellement dans leur jeu et qu'ils fassent ce même boucle de retour avec la communauté, c'est naturel et c'est pour ça que ça a aussi bien marché, à mon avis. Donc je pense que c'est le truc que je soulignerais, que je tente à partager avec tout le monde quand je parle de Motion Twin, c'est que certes, les hiérarchies mettent un frein sur la croissance et rendent l'humain un peu compliqué parce que prendre le retour de cette personne dans la gueule quand ils sont pas d'accord avec toi, ça peut être compliqué. Ça pousse aussi à tout moment vers le haut, parce qu'il y a tout le monde qui a le droit à dire, je sais pas, un codeur qui peut pas faire une espèce d'esquisse d'un homme, genre un stick figure, je sais pas dire ça en français, est légitime à venir dire à un artiste, j'aime pas ce couleur, c'est nul, ou on voit pas assez bien ce truc là, pourquoi? Et donc, t'as toujours le désir de faire mieux. Donc,
C'était l'Immortal Dead Cells, le 4e épisode du podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast ou à nous contacter sur les réseaux sociaux de Revue Far West. Le podcast est un podcast du CATS, le cluster aquitain du Transmedia Storytelling, produit par Revue Far West avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole.